Chapitre 53. Avec un sourire mauvais, l'homme regarda la tache humide qui s'élargissait sur le devant du pantalon d'Henrik.
« C'est notre garçon ?»
demanda-t-il d'un ton dur et glacial qui fit sursauter le gamin malgré sa stupeur. Les sept familières reculèrent d'instinct, comme si elles n'avaient même pas conscience que cette voix suffisait à les terroriser. La pitié silence couina brièvement.
« Oui, c'est lui, évêque Arc !»
traduisit la familière manchotte. L'évêque foudroya Djit du regard, ses yeux se rivant en particulier sur sa bouche cousue, puis il braqua de nouveau son regard de cauchemar sur Henrik. Les yeux de cet homme n'avaient pas de blanc, parce qu'ils étaient tatoués de symboles rouges sang. L'iris et la pupille, tous les deux noirs, ressortaient tant sur ce fond écarlate qu'on eût dit qu'il vous regardait depuis un autre monde, où régnaient les flammes et la terreur, le royaume des morts peut-être. Pourtant, ce n'était pas la caractéristique la plus terrifiante de l'évêque Arc. Pour comprendre vraiment ce que voulait dire l'expression « être paralysé de peur », il fallait regarder sa peau. Tout ce qu'on en voyait était recouvert de tatouages. Des symboles, des couches et des couches de symboles, si épaisses que sa chair ne semblait tout simplement plus humaine. Partout, des symboles circulaires superposés les uns aux autres dissimulaient la peau qui devait pourtant bien se cacher quelque part dessous. Mais on n'en distinguait pas le moindre petit bout. Les tatouages du haut étaient plus sombres que ceux du bas, ce jeu de couleurs se répétant jusqu'à ce qui devait être l'ultime couche. Une configuration donnant l'impression que la peau de l'évêque absorbait les tatouages à mesure qu'on en ajoutait de nouveaux. Curieusement, cette profondeur, nécessairement une illusion d'optique, paraissait infinie, à croire qu'il n'y avait aucun support tout au fond, mais un puits de ténèbres d'où jaillissaient des figures géométriques torturées. En d'autres termes, la peau de l'évêque paraissait être tridimensionnelle et la multiplicité des couches interdisait de seulement estimer ses véritables limites. À cause de cela, l'évêque Arc ne paraissait pas complètement réel, comme s'il avait été une sorte de demi-fantôme, le genre de créature, Henrik en aurait mis sa tête à couper, qui devait être capable de se fondre à volonté dans son manteau ou son linceul de tatouage. Grâce à l'habile jeu de couleurs, tous les symboles étaient parfaitement distincts. Très différents les uns des autres, en taille et en forme, ils semblaient pourtant avoir un point commun. Plissant les yeux, Henrik vit que la plupart étaient en fait des assemblages de plus petites figures qui composaient des sortes d'emblèmes circulaires. Les mains de l'évêque et ceux qu'on apercevait de ses poignets sous les manches de sa redingote noire étaient totalement recouverts de symboles. Même ses ongles en portaient, ou plus exactement la peau qui se trouvait dessous. Son cou ne faisait pas exception à la règle, et son visage non plus. Le voyant cligner des yeux, Henrik constata que ses paupières aussi étaient tatouées, comme d'ailleurs le lobe de ses oreilles. C'était en quelque sorte un homme illustré, entièrement illustré même. Sur son crâne chauve, un emblème de grande taille dominait tous les autres. Englobant en fait la moitié supérieure de son nez et ses yeux, cette figure géométrique circulaire couvrait tout le haut de sa tête. Un deuxième cercle était enchâssé dans le premier et des frises de runes marquaient la frontière entre les deux. Placé dans le cercle intérieur, un triangle s'étendait horizontalement juste au-dessus des sourcils de l'évêque. Des symboles plus petits, également sphériques, semblaient graviter autour des pointes de ce triangle sur les tempes de l'homme et à l'arrière de sa tête. Conséquence de cette disposition, on avait l'impression que les yeux rouges brillaient exactement au centre du vaste symbole circulaire, comme s'ils regardaient les vivants depuis les profondeurs du royaume des morts. Au centre du cercle, sur le front de l'évêque, Henrik crut reconnaître le chiffre 9, mais inversé. Les tatouages crâniens étaient plus sombres que les autres, sans doute parce qu'ils avaient été ajoutés le plus récemment, mais surtout parce que le trait était plus gras. Malgré tout, ce détail de la fresque semblait prendre place dans un projet global ambitieux et toujours en cours d'élaboration. En d'autres termes, Rien n'était encore figé dans le processus d'illustration auquel se soumettait l'évêque Arc. Même s'ils n'étaient pas semblables, les centaines de tatouages paraissaient être une variation sur un thème. Le cercle restait la figure dominante, le fil rouge, aurait-on pu dire, et le sens profond de tout cela aurait bien pu être la notion d'intrication, considérée comme un des fondements de l'existence et de la pensée. Lorsqu'on n'y était pas préparé, voir un homme se dévouer à ce point à une mission occulte ou un sacerdoce magique était profondément perturbant. Disparaissant sous ses illustrations, l'évêque Arc évoluait sans cesse sous un voile d'illusion, comme s'il avait refusé de montrer aux autres sa véritable apparence, désormais perdue, y compris peut-être à ses yeux, ses puits de flammes et de sang. Voyant que plusieurs familières regardaient nerveusement derrière lui, l'évêque eut un sourire hautain.
« Je ne l'ai pas amené avec moi !» répondit-il, répondant à la question muette qu'il lisait dans le regard des créatures. « Au contraire, je l'ai envoyé en mission. »
Les familières inclinèrent humblement la tête comme si elles voulaient se faire pardonner leur indiscrétion. Les yeux écarquillés d'un des prisonniers de la muraille végétale, derrière Jit, ne parvenaient pas à se détourner de l'évêque. Terrorisé, l'agonisant déglutissait péniblement, comme s'il tentait de ravaler un cri qu'il n'était de toute façon plus en état de pousser. Tous ces malheureux paraissaient incapables d'émettre un son, même s'ils semblaient assez effrayés pour hurler à s'en casser les cordes vocales. L'évêque Arc tendit un bras vers le prisonnier qui le dévisageait. Un geste nonchalant, presque distrait, mais de toute évidence adressé à l'agonisant qui ne parvenait pas à détourner les yeux de lui.
« Du calme !» souffla l'évêque.
Un simple murmure, mais aussi froid et autoritaire que tous les cris jamais entendus par Henrik. Le prisonnier haleta comme s'il s'étouffait. Prenant une profonde inspiration, il inclina très légèrement la tête en arrière et ses yeux se révulsèrent. Secoué de spasmes, il s'affaissa soudain, autant que le lui permettait sa prison végétale, bien entendu. Puis il devint tout à fait inerte et exhala ce qui devait sans doute être son dernier soupir. L'évêque jeta un regard circulaire au prisonnier.
« Quelqu'un d'autre veut me défier ?»
Dans un silence de mort, des dizaines de perdus se baissèrent. L'évêque sourit à la pitié silence.
« Voilà donc où tu étais, venu te réapprovisionner en fluide corporel de cadavres, histoire que tes assistantes les aspirent puis te nourrissent. »
Les yeux noirs de Jit ne sillèrent pas. En revanche, elle émit un son grinçant ponctué de plusieurs claquements de langue. Une des familières se chargea de la traduction.
« Jit veut savoir pourquoi vous êtes ici. »«
Ce n'est pas évident. »
L'évêque désigna Henrik.
« Je suis venu m'assurer que tu as accompli la mission dont je t'avais chargé, pitié silence. »
Après une longue hésitation, Jit acquiesça. L'évêque plissa le front, déformant les symboles qui s'y affichaient.
« Tu m'as fait perdre assez de temps, et j'ai bien l'intention que ça cesse. Le gamin est enfin là. Alors terminons-en !»
Jit fit signe à Henrik d'approcher.